Toujours est-il qu'en 3 mois, j'ai reçu 6 réponses positives et 3 négatives. Pas mal. Bien entendu, manquant de patience et d'argent, quand on démissionne, on ne reçoit pas de parachute doré ou non. J'ai signé avec le premier qui m'a écrit, le très respectable Mercure de France. Ce n'était peut-être pas l'éditeur le plus apte à promouvoir des romans grand public, mais ils ont tout de même réussi à vendre 50 000 des 6 titres que j'ai publiés chez eux. Je venais, sans le savoir, d'inaugurer ce que Sulitzer a appelé plus tard le western financier. Entre-temps, mes scénarios de bande dessinée ont commencé à bien marcher. Torgal d'abord avec Rosinski, puis 13 avec William Vance. Et enfin, en 1990, un nouveau départ BD pour l'Argo Winch avec un jeune dessinateur surdoué, Philippe Franck. La boucle était-elle bouclée? Pas encore. À l'extrême fin du XXe siècle, l'Argo a eu les honneurs d'un feuilleton télévisé. 39 épisodes coproduits par M6, RTL, TVI, Dupuis Audiovisuel et la Paramount. Une joyeuse expérience et un honnête succès d'audience. Et pour décembre 2008, on nous annonce la sortie d'un film, cinéma cette fois, produit par la Paneuropéenne, avec Thomer Sisley et Christine Scott-Thomas dans les rôles-titres. Ne serait-ce pas l'occasion de donner une deuxième vie au roman? La réponse est oui, avec cette fois un jeune éditeur qui mettra, je l'espère, tout son cœur à les promouvoir. Jeune éditeur qui m'a demandé si je souhaitais réactualiser ses textes écrits entre 1976 et 1981. J'ai répondu non. D'une part, cela risquerait de gâcher la spontanéité de ma prose de l'époque. Et d'autre part, cela ne me paraît pas nécessaire. Certains chiffres, certaines évocations politiques ou historiques sont évidemment dépassés. Mais je ne pense pas que cela gêne en quoi que ce soit le rythme des péripéties vécues par le toujours jeune Largo Winch. En tout cas, je le souhaite. Au plaisir. Jean Van Ham. Toute ressemblance avec telle personne que le lecteur connaîtrait ne pourrait qu'engager celui-ci à mieux choisir ses relations. Cela dit, les personnages et les péripéties de ce roman ont été exclusivement puisés dans l'imagination de l'auteur. Première partie, les 8 premiers jours. New York, mercredi 28 avril, 20h30, heure locale. Nerio Black Eye Winch referma le dossier médical. Sa main gauche, la seule valide, tremblait. Il sentit un filet de sueur couler le long de sa nuque et il prit soudain conscience de l'odeur âcre, un peu moisie, qui émanait de son propre corps. L'odeur de la peur. Rageusement, pour se défouler de l'angoisse qui lui nouait le ventre, il jeta le dossier à travers la pièce. Les radiographies, les rapports d'analyse, les graphiques, les feuilles de diagnostic volèrent aux 4 coins de l'immense appartement avant de retomber au hasard sur le tapis de haute laine. À peine calmé par son geste, Nerio Winch fit brutalement pivoter son fauteuil roulant. Il prit sur son bureau la lettre qui était jointe au dossier. Quel pouvait bien être l'enfant de salaud qui... Mais sa main tremblait trop. Rejetant la lettre, il lança son fauteuil le long des grandes baies vitrées qui entouraient la pièce. La nuit venait de tomber et les vitres obscures lui renvoyaient son reflet. Il se fixa, interdit. C'était donc à cela que ressemblait un condamné à mort. Cet homme aux cheveux noirs plaqués sur le crâne, au nez fort, au menton saillant, cette silhouette en robe de chambre prostrée dans un fauteuil orthopédique, c'était lui. Lui, l'un des hommes les plus puissants de la Terre. Le visage de Nerio Winch se crispa de colère. Ses yeux fulgurèrent. Ses yeux à l'iris noir comme de l'anthracite. Ses yeux de nuit d'orage qui lui avaient valu son célèbre surnom. Nerio Black Eye Winch se haït de n'être que ce pantin impotent.